Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes des élèves de la 4e 5 du collège Yvon Moranda, à Saint-Denis-les-Bourgs.
Aujourd'hui, nous vous présentons une émission autour du recyclage.
Face à la pollution de la planète, le recyclage est essentiel pour la protéger.
Et vous, que faites-vous pour limiter vos déchets? Ou leur donnez-vous une seconde vie?
Tout de suite, on écoute des élèves et des adultes de notre collège. Ils sont au micro de Wissal et Semi.
Terminer cette phrase si on continue à produire trop de déchets.
Eh ben, ce sera la fin de l'humanité, mais pas la fin de la planète.
On va étouffer sous les déchets.
Nous allons créer un 10e continent.
Il y aura le réchauffement climatique et tout ça.
Si on produit trop de déchets, ça va finir par polluer les océans et la planète Terre.
Eh bien, notre environnement sera dégradé. Il y a plein de biodiversité qui vont disparaître.
Qu'est-ce qu'il faut changer pour produire moins de déchets?
Il faut consommer moins.
Que les personnes, citoyens, en prennent conscience et commencent à trier et à faire du renouvelable.
Arrêter l'obsolescence programmée, beaucoup moins de plastique, privilégier le carton et autres.
De se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce produit et est-ce que je ne peux pas le fabriquer moi-même ou est-ce que, par exemple, je ne peux pas le trouver d'occasion.
Beaucoup moins de choses qu'on change alors qu'elles ne sont pas finies d'être utilisées, qu'on jette alors qu'on pourrait encore s'en servir pendant très longtemps. Essayer de diminuer un tout petit peu cette société de consommation, faire peut-être beaucoup moins de publicité pour beaucoup moins tenter les gens.
Que faites-vous au quotidien pour limiter vos déchets?
J'essaye d'acheter juste ce qu'il me faut au niveau cuisine. J'essaye de faire le tri.
Bah, j'ai arrêté plein d'aliments qui, comme le Nutella ou autres, qui font beaucoup de déchets. Je privilégie beaucoup les légumes bio qui sont en vrac.
Bah, je les trie avant de les mettre à la poubelle.
Je ne renouvelle pas mon matériel électroménager ou technologique tant que vraiment il fonctionne encore un tout petit peu. Je ne jette rien, je donne tout ce qui peut éventuellement resservir.
Merci aux élèves et aux adultes qui ont répondu à nos questions. Maintenant, Luna et Thomas vous proposent un tuto pour fabriquer vous-même un déodorant 100% naturel. C'est bon pour la planète, notre corps et notre portefeuille. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Luna et je suis avec Thomas. Salut Thomas.
Salut Luna. Bonjour à toutes et à tous.
Thomas, ça veut dire quoi pour toi le recyclage?
Le recyclage, pour moi, c'est de redonner une vie aux objets et aux objets du quotidien pour préserver la planète et ses citoyens.
Oh là là, ça a l'air vraiment compliqué.
Mais non, pas du tout. Par exemple, samedi, j'ai fait une fête chez moi et j'ai opté pour des couverts, des verres et la décoration en carton recyclé.
Waouh, c'est vraiment génial. Je n'y avais pas pensé.
Et en plus, avec tout ça, on peut directement les jeter et on n'a pas besoin de les laver, donc on n'utilise pas d'eau.
Mais au lieu de les jeter, on peut les transformer en quelque chose de complètement différent, comme un pot de fleurs, un pot à crayon ou de la décoration.
Ah oui, ce n'est pas bête.
Tu sais qu'on peut fabriquer son déodorant ou son dentifrice. En plus, ça permet de moins dépenser d'argent.
Ah bon, comment on fait?
Voici une recette très simple pour fabriquer un déodorant naturel. Alors, il faut 4 cuillères à soupe d'huile de coco, 3 cuillères à soupe de fécule, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, 1 cuillère à soupe de cire d'abeille et 15 gouttes d'huile essentielle. Côté budget, ça coûte 1,50€ pour 3 mois.
Je ne suis pas totalement convaincu par ce produit.
Pourquoi?
Je n'ai jamais entendu parler et je ne sais pas où trouver tous ces produits.
Pourtant, c'est simple. L'huile de coco, tu peux la trouver en supermarché comme le bicarbonate. Et il y a aussi les magasins bio pour la cire d'abeille, par exemple.
D'accord, je vais essayer alors.
Personnellement, je l'utilise depuis des années et ça fonctionne très bien.
Parfait.
Et toi, tu connais d'autres astuces?
Oui, ma mère fait des produits ménagers elle-même.
Ah bon? Quels sont les ingrédients?
Il faut 1 litre de vinaigre blanc et tout type d'épluchures d'agrumes, de préférence bio.
Mais des épluchures de quel fruit?
Orange, citron, clémentine ou encore pamplemousse.
Et c'est fini?
Non, tu laisses macérer 3 semaines et tu ajoutes 1 demi-litre d'eau et c'est prêt.
D'accord, je vais essayer.
Tu m'en diras des nouvelles alors.
D'accord, je te tiens au courant. Salut Thomas.
Salut Luna, à la prochaine sur Radio B.
Merci d'avoir suivi notre tuto. Avant de laisser la place à Bilal et Sarah, on vous propose un extrait de la mini-série Brut, une parodie de Brut. média d'information.
Bonjour, c'est pour un retour.
Bien sûr, c'était quoi le problème? C'était la taille?
Non, non, c'est juste qu'ils sont plus à la mode.
Ah d'accord, vous les avez achetés il y a 20 minutes.
Nos clients, ils aiment bien s'inspirer des stars qui, elles, portent jamais deux fois le même vêtement. Et puis ça tombe bien parce qu'en fait, les vêtements qu'on vend sont de tellement mauvaise qualité qu'on peut pas les porter deux fois. Donc.
Alex, tu me sors les jupes des cartons, tu me les classes par couleur, par taille, et puis demain, on fait la même chose avec la nouvelle collection. Hein?
Les gens sont persuadés de compenser leur surconsommation en faisant des dons à des assos, mais c'est vrai qu'on mesure l'absurdité d'un monde au fait que, par rapport à nous, les SDF ont de moins en moins de collections de retard. La fast fashion commence à être concurrencée par l'ultra fast fashion, avec genre des marques chinoises qui proposent des collections toutes les semaines, hyper innovantes, colorées, mais là qui ciblent clairement les 12-16 ans, hein, ce qui est cohérent vu que c'est fabriqué par des 12-16 ans. Donc, l'industrie textile est responsable chaque année de l'émission de 1 milliard de tonnes de CO2. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y aura une contraction naturelle, puisque fatalement, on fabriquera moins de doudounes. La mode s'accélère, puisque les consommateurs veulent être les premiers à suivre une nouvelle tendance pour se différencier des autres. Mais alors pour ça, pas de panique, il y aura toujours un marché, parce qu'on est des milliards à vouloir être unique.
Brout. Brout, brout.
Sarah et Bilal, c'est à vous.
Bonjour, je suis Sarah et je suis avec Bilal.
Bonjour à tous et à toutes.
Bilal, j'ai arrêté de boire du Coca-Cola, des boissons de Nestlé et du PepsiCo.
Mais pourquoi donc, Sarah?
C'est tout simple. D'après la revue GeoAdo sortie en novembre 2021, ces boissons dans des bouteilles plastiques polluent des pays du monde entier. Le Coca-Cola arrive en tête. Près de 14 000 déchets polluent une cinquantaine de pays. Les boissons Nestlé arrivent en deuxième position avec plus de 8 000 déchets dans une trentaine de pays. Et le PepsiCo arrive troisième avec un peu plus de 5000 déchets dans une quarantaine de pays.
Oh, merci Sarah, ces informations me seront vraiment utiles. Je te remercie. As-tu une astuce pour moins polluer l'environnement avec les bouteilles de plastique?
Oui, j'ai une bonne astuce pour toi. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, tu pourrais acheter des gourdes en métal ou en verre.
Super idée ça! Sais-tu que d'après le livre « Un monde sans plastique » de Valérie Desplat aux éditions Fleurs, chaque année, entre 8 à 12 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan. C'est comme si chaque minute on remplissait un camion à ordures.
C'est de la folie!
Tu ne crois pas si bien dire. Par exemple, la dernière fois, j'avais vu une vidéo choquante d'une tortue avec une paille dans son nez. Et j'ai aussi vu une photo d'une méduse avec un coton-tige dans son corps.
Waouh, c'est choquant tout ça. Mais comment peut-on éviter tout ça?
Pour les pailles, on peut les remplacer par des pailles en métal lavable. Et pour les cotons-tiges, il faut seulement les remplacer par des cotons-tiges en bois ou par des grandes tiges en bois lavable.
Ah ok. Dis-moi Bilal, est-ce que tu te laves les dents?
Bien évidemment, pourquoi?
Est-ce que tu sais qu'il y a des produits chimiques dans ton dentifrice? Mais pas de panique, j'ai une recette 100% naturelle. Il faut verser 3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, ensuite mettre 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, puis verser une demi-cuillère à café d'argile. Et pour finir, 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée.
Oh top! Merci Sarah pour ta recette. Je vais la tester avec plaisir.
C'était Sarah et Bilal du collège Yvon Moranda.
À la prochaine sur Radio B.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio B. 90 FM dans l'émission spéciale sur le recyclage des élèves de 4e 5 du collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
Peut-être avez-vous déjà croisé Patrick Cornu dans une des déchetteries de Bourg-en-Bresse.
Il n'y travaille pas, mais là-bas, il y trouve son bonheur.
On ne vous en dit pas plus. Avec Nolan, nous l'avons interviewé au collège. Il est venu partager sa passion à tous les élèves de notre classe.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Alors oui, je m'appelle Patrick Cornu, je suis ici déjà en tant que... je vais dire citoyen, on va dire responsable, où j'essaie d'exprimer un peu des choses qui correspondent à mon éthique par rapport à l'avenir de cette planète, entre autres. Voilà, sinon je suis surtout musicien, comédien, je suis intermittent du spectacle. Et puis je suis beaucoup dans le bricolage aussi, l'astuce de bricolage.
Comment vous est venue cette idée de faire des instruments avec des déchets?
De constater la... malheureusement, la surabondance des déchets qui nous entourent. Et c'est surtout sur un plan musical, sur un plan comme l'accès à toute chose, à tout métier, où j'ai tellement entendu dire des personnes pouvaient pas faire de la musique plus jeune parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de faire de la musique. Alors moi, j'interviens en musique sur deux aspects. Autant ça m'a amené à fabriquer moi-même mes instruments de musique. Alors, mais aussi inventer d'autres sons, d'autres sonorités, des accessoires de bruitage aussi, bruitage comme en studio, de cinéma, de radio. Et surtout, voilà, c'était sur deux points, sur les instruments pour les fabriquer soi-même, c'est aussi une satisfaction. Et puis quand on fabrique quelque chose, on est à même de faire la maintenance de son objet, quoi. Voilà. Et puis en musique, après sur l'autre plan, c'était plus montrer qu'on peut faire de la musique sans passer par le solfège.
Comment fabriquez-vous vos instruments ?
Tout simplement, la première fois qu'il m'est venu à l'idée d'essayer de faire une sorte de guitare, c'était parce que j'ai regardé, j'ai essayé de reproduire. J'ai essayé surtout de, quand on veut reproduire quelque chose avec de la récup, on regarde comment est fait l'original, quoi. Et en fait, en disséquant, démontant, ou en regardant sur toutes ces formes l'original, on se rend compte que ce bout de bois, il pourrait être fait avec ça, avec une moitié de pince à linge. Ça, ces cordes, clac, ça pourrait être du câble. Voilà, toutes ces choses-là à reproduire. Et puis, surtout, le petit challenge, c'est que tout ce que je fais, que ce soit des instruments de musique, des décors ou des choses du quotidien, j'essaye au mieux de les faire sans colle ni scotch.
Vous les trouvez où, tous les déchets ?
Bon, je fais partie d'une compagnie, la compagnie Palavane, sur Bourg-en-Bresse. En 2005, une transformation a eu lieu de la compagnie où on s'est dit on peut faire des spectacles de musique et de théâtre du moment que ça permet de véhiculer un message éthique. Donc en 2005, j'ai eu le projet de monter Les Pourquoi Pas, un spectacle de rue qui joue qu'avec des déchets, qui prône des paroles, des chants alternatifs, des petites piqûres de rappel ludique et loufoque, donc ça passe beaucoup mieux.
Allô, oui, bonjour. Vous êtes bien chez le collectif Palavane. Qui demandez-vous ? Les Pourquoi Pas ? Notre brigade de déconcipation. Très bon choix.
Les usines fument, les rivières écument, les moutons mangent leur papa, changés en granulés. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, et nos poubelles radioactives s'en vont à la dérive.
Donc j'ai été voir les responsables pour leur dire je n'ai pas besoin d'argent public ou de subvention pour monter mon projet, j'ai seulement besoin d'un accès à la déchetterie, aux déchetteries de Bourg-en-Bresse. Et puis une dizaine d'entreprises à Bourg où j'ai l'habitude de récupérer des matériaux qui veulent bien me laisser accès à leur benne.
Est-ce que vous pouvez nous raconter la fabrication d'un ou plusieurs de vos instruments ?
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Peut-être des instruments qui me servent actuellement. Je disais tout à l'heure comme le réco-réco, les ressorts tendus sur la boîte de sardines. Là, c'est deux jambes de vélo, vous voyez, que j'ai coupé. Jambes de vélo, je l'ai tapé pour que ça soit plat. J'ai mis des rayons de mobilette et puis des couverts, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est assemblé sans colle ni scotch. Il y a une tige filetée là, un bout de chute de plastique pour pas que la tige filetée que soit plus agréable si on veut le tenir comme ceci. C'est un chocalho, c'est ce qu'on entend dans les musiques, les sambas brésiliennes. Démontable à souhait. Le jour où j'en ai plus besoin, l'avantage de ne pas avoir de colle ni scotch, on resépare les matériaux. Ça, corbeille à pain, corbeille genre scolaire.
Quel instrument vous a pris le plus de temps à fabriquer et pourquoi ?
Mais généralement, on fait des choses assez rapides à fabriquer, puisqu'on le fait par le biais d'ateliers, la fabrique récup, au sein du collectif Palavane. Et donc, il faut que ça soit fait assez vite. Des fois, on voit les gens qu'une demi-heure, une heure. Donc.
Avez-vous des collections d'instruments ou vous les détruisez pour en construire d'autres ?
Non, je n'ai pas un stock d'instruments, puisque quand je fais un instrument, souvent, c'est pour une demande, c'est pour un besoin. Alors, j'en ai un petit stock que je me balade quand je vais en spectacle, quand je joue, ce que j'ai besoin. Quand je fais une flûte, par exemple, je vais en faire une autre, deux autres qui seront dans une autre tonalité. Et des fois, pourquoi pas en double, par sécurité, s'il y a quelque chose qui lâche en concert et qu'on n'a pas le temps de la refaire, de la réparer. Mais non, je n'ai pas vraiment un stock d'instruments et je n'ai pas l'occasion de les... Quand il m'arrive de détruire un instrument, c'est parce que justement je suis insatisfait du son ou je ne vais pas le détruire, je vais le démonter en partie pour l'améliorer. Mais détruire un instrument, non. C'est pour ça que dans la fabrique récup, on boycotte la colle et le scotch. Et l'intérêt, c'est que la personne, en fait, toute personne qui participe à nos ateliers repart avec son instrument de musique, bien sûr, parce qu'on part du principe, quand on l'a fabriqué, ça nous appartient. L'instrument, il est toujours réajustable à souhait, puisque justement, ça n'est pas collé, donc pas figé. Tout se transforme, tout se démonte, tout se réajuste.
Est-ce que tout le monde peut fabriquer des instruments avec des déchets ou pas?
Tout le monde, sans exception. La plupart du temps, quand des personnes arrivent, elles voient les instruments de musique, me disent « Oula, ça a dû prendre du temps, puis il faut s'y connaître, puis il faut être musicien. » C'est sûr qu'il faut être un tantinet musicien, faire un instrument, ne serait-ce pour le tester. Je pars du principe que tout le monde peut faire un instrument du moment qu'il a enlevé la plus grosse barrière. C'est celle qu'il a dans la tête, qu'on se dit pour beaucoup de choses.
Ben, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à Patrick Cornu d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions.
Tout le monde peut fabriquer chez lui des instruments de musique. Ryan et Samuel ont demandé à Patrick Cornu les étapes pour en faire un.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Ryan. Salut Ryan.
Salut Samuel. Bonjour à toutes et à tous.
Tu joues d'un instrument toi?
Non, ça coûte trop cher.
Tu sais que tu n'as pas besoin d'en acheter.
Ah bon, et comment on peut faire?
Tu peux créer des instruments avec des objets recyclés.
Ah oui, c'est génial. Tu sais fabriquer un instrument?
Oui, grâce au comédien musicien Patrick Cornu, je sais faire un chocaillot.
Tu peux m'apprendre à le faire?
Bien sûr. Pour commencer cette petite présentation, cet instrument à percussion agitée d'origine portugaise. Il est très utilisé dans la musique samba au Brésil.
Et ça veut dire quoi, chocaio?
C'est du portugais et ça veut dire hocher. Passons maintenant à la fabrication. Pour le faire, il faut deux tiges. On peut par exemple prendre des jambes de vélo, comme ça les trous sont déjà percés. Sinon, il faut prendre deux barres et percer des trous dedans. On place les deux barres en parallèle et on va les relier avec des rayons. Et sur ces rayons, on va placer des couvercles de bocaux. Il faut déjà percer un trou au milieu, des couvercles pour les enfiler sur le rayon. Attention, il faut enfiler les couvercles face à face.
Ah oui, ça fait penser au cassette espagnol ou au carcabou du Maghreb.
Tout à fait.
Et pour utiliser,
il faut secouer derrière en avant.
Merci Samuel et aussi merci Patrick Cornu de nous avoir partagé ces recettes de fabrication.
Il nous a appris qu'avec un peu d'imagination et quelques tutos sur Internet, on peut fabriquer plein de choses.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
A bientôt sur Radio B.
C'était Ryan et Samuel du collège Yvon Moranda. Maintenant, on vous laisse avec la chanteuse Suzanne. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie, il y a des cactus et sur ce même cactus depuis il y a du plastique. Aïe. Sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? Ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? Tout le monde savait. La planète à la tête dans son chauffeur. La planète à la tête dans son chauffeur. Je me dis parfois de façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars.
ça que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
On a cassé la planète, il ou le SAV de Suzanne.
Avant de terminer cette émission, on retrouve Ryan. Il nous présente un livre.
Bonjour, je suis Ryan et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Un monde sans plastique de Valérie Desplaces aux éditions Flairus. Je l'ai lu récemment. C'est hallucinant comme la mer et les océans sont de vraies soupes de plastique. On parle même d'un septième continent de plastique. Et chaque année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique y sont déversées, soit l'équivalent d'un camion à ordures chaque minute. Et j'ai aussi appris que les animaux marins ont été menacés, ils ne sont pas les seuls. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent chaque année à cause du plastique. Ce livre est au CDI pour les élèves et enseignants du collège Yvon Moranda. Et n'hésitez pas à l'emprunter près de chez vous s'il est disponible.
C'est la fin de notre émission autour du recyclage.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie d'agir au quotidien pour recycler vos déchets.
Merci à Audrey de Radio B. Merci à Mesdames Cola et Jérôme du Collège Yvon Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs. Merci aux élèves et adultes qui ont répondu à nos questions. Merci à Patrick Grenu pour son intervention.
Et merci à Marie-Laure et Marianne Durepère d'avoir partagé avec nous leurs recettes pour faire soi-même nos produits d'hygiène et pour le temps passé avec nous.
À la réalisation de cette émission, Jules,
Luna,
Ryan,
Samuel,
Wissal, Bilal,
Sarah,
Semi,
Thomas,
Nolan.
Réécoutez cette émission sur Radio B dans la rubrique Les ateliers et les ateliers de Radio B.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes des élèves de la 4e 5 du collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
Aujourd'hui, nous vous présentons une émission autour de la protection des oiseaux et de la biodiversité.
Avec les dérèglements climatiques, la pollution, la déforestation ou l'utilisation de pesticides, les oiseaux et d'autres espèces sont en danger et certains ont déjà disparu.
Et vous, que faites-vous pour protéger les oiseaux près de chez vous?
Tout de suite, on écoute des élèves et des adultes de notre collège. Ils sont au micro de Johan et moi-même.
Quel est votre oiseau préféré?
La mésange.
J'aime bien le perroquet, un grand perroquet coloré. Et je trouve qu'il est beau.
Moi j'ai un oiseau particulier, c'est le martinet noir, qui ne se pose jamais et il dort même en volant.
Mon oiseau préféré, enfin, c'est les flamants roses. Je trouve qu'ils sont vraiment majestueux. En plus, leur couleur est vraiment très jolie.
La cigogne.
Je crois que c'est le pivert, à cause de Woody Woodpecker.
Pour moi, c'est le pic noir, parce que j'adore la forêt et c'est un oiseau très particulier qui aime les êtres très gros et très matures, on appelle ça. Et donc pour moi, c'est symbole d'une forêt âgée.
Les oiseaux sont-ils menacés?
Il y en a plein qui souffrent énormément actuellement. Même des oiseaux qui avant étaient largement présents, comme les moineaux et tout ça, qui sont de moins en moins nombreux.
On détruit leurs habitats en construisant par-dessus et en rasant les endroits où ils pourraient vivre.
Ça oui, je pense qu'ils sont menacés effectivement. Ils ont de moins en moins d'endroits où nicher, ils ont de moins en moins de nourriture. L'hiver, plus vraiment de points d'eau, donc je pense effectivement qu'ils sont menacés.
Et que faites-vous pour les protéger?
J'aime bien installer des nids dans mon jardin et puis leur donner des petites boules l'hiver pour qu'ils trouvent à manger.
J'évite de faire du bruit peut-être pour pas aller les déranger.
Par exemple, dans l'établissement scolaire, on a créé le refuge pour les oiseaux. Donc, personnellement rien, mais collectivement, on fait des choses.
Alors, moi, j'ai installé des nichoirs, j'ai fait ma mangeoire, j'ai laissé une zone non tondue, donc pour avoir plus d'insectes en fait dans le jardin. Et aussi, je leur mets en été une petite coupelle d'eau, pas trop profonde, et comme ça, ils peuvent s'abreuver dedans quand il y a peu d'eau.
Il faudrait aller dans les associations pour pouvoir aider au maximum, savoir les gestes qu'il faut faire, les actions à faire, parce que effectivement, on connaît pas trop les actions que l'on peut faire pour les aider.
Merci aux élèves et aux adultes qui ont répondu à nos questions.
Des associations sont mobilisées pour protéger les oiseaux, comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'est une association nationale. Nous avons rencontré un de ses animateurs dans l'Ain. Il est au micro de Maïwenn et Quentin.
Bonjour, je m'appelle Maïwenn.
Bonjour, je m'appelle Quentin.
Merci d'avoir accepté cette interview. Paul Brunet, vous êtes animateur nature à la LPO. Que signifie LPO ?
Eh bien, la LPO, ça veut dire Ligue pour la protection des oiseaux. On protège vraiment les oiseaux, mais aussi la biodiversité en général. Donc les espèces qui vivent dans notre monde, et surtout en France.
C'est quoi la biodiversité ?
Alors la biodiversité, c'est vraiment la diversité du monde vivant. Et on a trois niveaux de diversité. On a la diversité au niveau des génétiques, la diversité des populations, donc des espèces, et la diversité des espaces où ils vivent.
Quand et pourquoi cette association a été fondée ?
Cette association, elle a été fondée en 1912 pour protéger un petit oiseau qui s'appelle le macareux-moine, qui était menacé d'extinction sur les côtes bretonnes, donc en Bretagne, notamment parce qu'il mangeait beaucoup de poissons, donc les pêcheurs, ils l'aimaient pas beaucoup.
Quels sont les objectifs de cette association ?
L'objectif premier, c'est vraiment de protéger les espèces d'oiseaux par différents biais, notamment des suivis naturalistes. C'est en fait de faire des études sur les espèces pour mieux les connaître. Un autre volet qui va être plutôt de la sensibilisation et de l'animation, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, et aussi un peu de communication, voilà, sur les espèces.
Pourquoi est-il important de protéger les oiseaux ?
Ça peut être déjà pour le plaisir des yeux, c'est quand même assez intéressant de voir des oiseaux voler au-dessus de notre tête, puis aussi de les entendre. Puis aussi, les oiseaux font partie d'une chaîne alimentaire et sans eux, déjà, il pourrait y avoir, sans les rapaces par exemple, il pourrait y avoir beaucoup de cadavres qui restent dans la nature et donc ça apporterait beaucoup de maladies.
Quels oiseaux sont menacés d'extinction en France ?
Beaucoup d'espèces sont menacées en France. On perd à peu près 35% de la biodiversité au niveau national. Après, je peux vous citer quelques oiseaux qui sont menacés en France. Nous avons par exemple un grand rapace qui vit plutôt dans les Alpes, donc pas très loin de chez nous, qui s'appelle le gypaète barbu. Puis dans l'Ain, on peut avoir notamment le grand tétra, qui est une espèce, une sorte de grosse poule sauvage qui est présent dans les forêts d'altitude. On a le dyknème criard, un petit oiseau qui vit dans les champs, qui a un grand sourcil, on dirait qu'il fait la tête un peu quand on le voit.
Pourquoi est-ce que ces oiseaux disparaissent ?
Ces oiseaux disparaissent alors pour différentes raisons et c'est surtout à cause de l'homme, notamment parce qu'on leur détruit leurs espaces de vie et aussi on détruit leur nourriture par notamment le fait de mettre des pesticides ou le fait de labourer des champs où vivent notamment par exemple le dyknème criard. Il vit essentiellement dans les champs et là on a des plantations qui sont pas du tout adaptées pour ces espèces. On a des grands champs de maïs qui demandent beaucoup d'eau et le dyknème a besoin de voir très très loin et tout ce qu'il préfère, ça serait un champ de blé ou un champ beaucoup plus bas pour pouvoir voir arriver des prédateurs. Donc le maïs est beaucoup trop grand et pas adapté pour cette espèce-là, donc elle est obligée de partir de ces milieux-là et de ces champs-là.
Qu'est-ce qu'un refuge LPO ?
C'est un espace d'accueil pour la biodiversité. Donc ça peut être par exemple des nichoirs, mais aussi par exemple on va choisir de ne pas tondre une partie de son espace pour ensuite accueillir peut-être des insectes ou de la nourriture qui va favoriser d'autres espèces. Donc par exemple on peut accueillir aussi le hérisson qui pourrait passer dans cet espace.
Combien y a-t-il de sortes de refuges LPO ?
Alors il y a quatre grands types de refuges LPO. Il y a le refuge qui s'appelle refuge particulier, donc ça peut être un jardin d'une personne qu'il a envie d'aménager. Donc il va faire son périmètre autour de son jardin et ça va être son jardin, un refuge LPO. Il va y avoir aussi des refuges balcons. Donc là, ça va être juste le balcon qui va être mis en refuge. Donc là, on peut installer des jardinières, on peut installer des nichoirs. Il va y avoir aussi les refuges collectivités. Donc refuge collectivité, ça va être plutôt pour les communes, les mairies, les communautés de communes aussi. Et là, ça va être plutôt des parcs qui sont présents dans une ville. Et il va y avoir les refuges entreprises, où là, ça va être un espace plutôt dédié pour les salariés ou des espaces verts qui vont être présents dans les entreprises.
Combien y a-t-il de refuges dans l'Ain ?
On en a à peu près 500 refuges LPO. Pour le département, c'est énorme. On a beaucoup, beaucoup de refuges particuliers, parce que c'est souvent quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Il suffit de s'inscrire. Et puis après, on a une trentaine de refuges établissements, donc d'écoles, de collèges, de lycées même maintenant, qui se sont engagés dans le programme refuge. Et on a aussi le reste, ça va être surtout des communes et des entreprises.
Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour protéger les oiseaux ?
Une chose toute simple déjà, c'est de lever la tête, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et puis essayer de les observer et puis de nous dire « bah tiens, j'ai observé aujourd'hui seulement peut-être des espèces que l'on peut voir tous les jours, un merle, une mésange, un rouge-gorge ». Déjà ça, c'est des premières données qui nous intéressent énormément. Et puis après, une autre chose qui est facile à faire, c'est vraiment en période d'hiver, donc là il faut arrêter, mais c'est plutôt de les nourrir. D'installer une mangeoire et de mettre des graines parce que les périodes d'hiver sont assez rudes et les oiseaux ils cherchent beaucoup de nourriture et donc là on va favoriser leur accueil. Et puis une autre chose qui est assez facile à faire parce qu'on peut trouver des plans assez facilement sur internet maintenant, c'est d'installer des nichoirs si on a un petit jardin.
Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire?
Surtout pas faire, on va éviter vraiment de mettre des pesticides. Je pense que ça c'est une première chose à faire qui est assez simple. On a d'autres solutions que le pesticide pour désherber. On peut désherber à la main ou utiliser des fois juste de l'eau chaude. Des fois, ça désherbe aussi bien. Une autre chose, c'est éviter de les empoisonner.
Quels oiseaux on peut observer dans l'Ain dans notre vie quotidienne ?
Les oiseaux qui vont être plutôt présents proches des bâtiments, donc comme les moineaux, les mésanges, les rouges-gorges, les merles. Et puis après, plus on peut aller loin, plus on peut voir d'autres espèces qui vont être plutôt dans certains milieux. Donc on va avoir, par exemple, si on va dans la Dombe, on a beaucoup, beaucoup d'étangs. Donc là, on a vraiment plusieurs espèces de canards. C'est un haut lieu de ce qu'on appelle l'ornithologie, de l'étude des oiseaux. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont sur ces espèces-là parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. Ensuite, on peut aller plutôt dans les champs et là, on a des oiseaux qui vont être plutôt dans la plaine. C'est à cet endroit-là qu'on retrouve le dyknème criard. Puis après, on a beaucoup de forêts aussi dans l'Ain. Donc on a aussi des espèces qui vont être très forestières. Comme par exemple le pic noir, qui est très très noir, avec juste une petite calotte. Donc c'est comme une petite casquette, toute rouge. Et il fait beaucoup de bruit et on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Paul Brunet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Paul Brunet, animateur nature à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions.
Ashley et Quentin vous proposent maintenant d'en savoir plus sur les oiseaux.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Quentin et je suis avec Ashley. Salut Ashley.
Salut Quentin, bonjour à toutes et à tous.
Sais-tu comment on peut aider les oiseaux ?
En été, on peut mettre de l'eau dans un petit bol pas trop profond. Pas besoin de leur donner à manger, ils trouvent ce qu'il faut dans la nature.
Et en hiver ?
On peut leur donner de l'eau et surtout de la nourriture. N'hésitez pas à accrocher des boules de graisse dans vos jardins et vos balcons. En été comme en hiver, on peut leur construire un abri et une mangeoire.
Maintenant que nous vous proposons d'en apprendre un peu plus sur les oiseaux.
Quentin, sais-tu combien d'espèces il y a dans le monde ?
D'après le magazine Géo, dans le monde, il y a 9700 espèces d'oiseaux qui compte environ 50 milliards d'individus. Et Ashley, sais-tu quelle espèce est la plus présente en France ?
Ce sont les passereaux. Et dans cette famille, on retrouve par exemple les moineaux. Quentin, sais-tu quelles sont les caractéristiques des oiseaux ?
Ils volent ?
Non, car tous les oiseaux ne volent pas. Essaye encore.
Ils ont un bec ?
Oui, mais les ornithorynques aussi ont un bec. Mais ce ne sont pas des oiseaux.
Alors ce sont les plumes ?
Oui, gagné.
Sais-tu ce qu'il y a de bien avec les oiseaux ?
Non, dis-moi tout, Quentin.
L'été, les oiseaux nous servent à se débarrasser des moustiques et des araignées. Certaines espèces adorent en manger. Ils dispersent les graines.
Merci, Quentin, pour toutes ces informations.
Merci, Ashley. Merci à tous de nous avoir écoutés.
On laisse maintenant la place à Wendy et Zoé. Elles vont nous parler des chauves-souris, un mammifère très important, témoin de l'équilibre de notre environnement.
Wendy et Zoé, c'est à vous.
Bonjour Wendy.
Salut Zoé.
Dis donc, l'autre jour j'ai aperçu une chauve-souris dans le gymnase où je fais mon sport.
Ah, mais t'as pas eu peur, moi je déteste cet animal.
Non, j'ai trouvé ça mignon. En plus, c'est utile pour la planète.
Utile en quoi ?
Les chauves-souris éliminent les moustiques qui peuvent être porteurs de maladies.
Ah bon, mais elles sont pas dangereuses pour nous ?
Bon, il peut arriver qu'elles se montrent agressives et nous mordent. Mais il leur faut une bonne raison.
Et ça pourrait être quoi ?
Les chauves-souris, comme tout autre animal, peuvent se sentir agressées et sont donc obligées de se défendre.
Ah, je savais pas.
Et tu savais qu'elles peuvent disperser les graines et polliniser les fleurs ? Un peu comme les abeilles en fait. D'ailleurs, environ 500 espèces de fleurs du monde dépendent des chauves-souris pour être pollinisées.
Ah bon ? J'étais pas au courant, c'est très intéressant.
Et il existe une multitude d'espèces de chauves-souris.
J'ai déjà entendu un nom rigolo, la pipistrelle, ça te dit quelque chose ?
Oui, elle fait partie des espèces les plus connues avec le petit rhinolophe. À noter que la chauve-souris est le seul mammifère volant. Et tu sais pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ?
Non, dis-moi.
Elles dorment la tête en bas pour se protéger des prédateurs, qui sont souvent au sol. Et la position tête en bas leur permet aussi de s'envoler plus rapidement en cas d'attaque.
Et elles mangent quoi ?
Des moustiques, des insectes, des papillons et des fruits.
Ah, mais il me faudrait une chauve-souris pour éviter de me faire piquer par les moustiques l'été.
Bonne idée. Et tu sais quelle est leur durée de vie en moyenne ?
Non.
Elle peut aller de 10 à 40 ans, mais elle est plutôt autour de 10 ans à cause des prédateurs, comme les hiboux ou l'un des prédateurs les plus dangereux, l'homme. Avec la déforestation, les pesticides et les voitures, nous sommes un véritable danger pour les chauves-souris. C'est bien dommage car les chauves-souris ont beau faire peur, elles sont très utiles et font partie d'un système bien organisé.
Merci Zoé, j'ai appris plein de choses.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio B 90 FM dans l'émission spéciale sur les oiseaux et la biodiversité des élèves de 4e 5 du Collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs.
Oiseaux, chauves-souris et papillons.
Lana et Bérénice se sont intéressées à ce petit insecte.
Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde.
Bonjour Lana, bonjour à tous et à toutes.
Tu t'y connais toi sur les papillons ?
Non, pas du tout.
Ça te dit de jouer à vrai ou faux avec moi ? Ça te permettra de tester tes connaissances.
Oui, pourquoi pas.
Ton avis, qu'y a-t-il sur les ailes des papillons ?
Comme ça, je dirais plein de couleurs.
Eh bien, pas totalement. En fait, sur les ailes des papillons, il y a des écailles. C'est le soleil qui reflète dessus et crée leur couleur. C'est pour ça que les papillons de nuit ne possèdent pas de couleur. Est-ce que tu as déjà entendu dire qu'il ne fallait pas toucher les ailes des papillons ? Sinon, ils risquent de mourir.
Oui, mon père m'a déjà dit ça.
Alors, à ton avis, vrai ou faux ?
Je dirais vrai.
Eh bien non, c'est surtout que les écailles sur leurs ailes sont fragiles et qu'elles risquent de se détacher si on les touche. Sans leurs écailles, plus de couleurs pour les papillons et donc plus de possibilités d'attirer leurs partenaires. Donc, des reproductions menacées. Mais ils ne mourront pas dans l'immédiat. Selon toi, les papillons mangent-ils des petits insectes ?
C'est faux, mais je ne sais pas ce qu'ils mangent.
Les papillons sont nectarivores, comme les abeilles, ils se nourrissent du nectar des fleurs.
À mon tour, j'ai une petite question pour toi, comme tu as l'air de t'y connaître. Combien de temps vivent les papillons ?
Je sais qu'il existe environ 15 000 espèces de papillons, mais que la réponse n'est pas si évidente. En fait, plus le papillon est petit, moins sa durée de vie est importante, parfois quelques heures seulement. Mais il ne faut pas oublier que le papillon, avant de devenir papillon, était un œuf, puis une chenille et une chrysalide.
Ah ouais, et ben...
D'après toi, les papillons hibernent-ils ?
Je pense que c'est faux.
Et non, c'est vrai, les papillons peuvent hiberner à tout moment de leur vie en fonction des espèces. Ils supportent le froid grâce à des substances antigèles. Merci pour tes réponses, Bérénice.
De rien, c'est important de prendre soin des papillons. Ils sont très utiles à la biodiversité ou encore à la floraison.
Oui, il faut les protéger.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
C'était Lana et Bérénice sur les papillons.
On reparle maintenant des oiseaux avec Flora et Clément.
Bonjour Flora.
Bonjour Clément. Sais-tu ce que les oiseaux apportent à notre terre ?
En général, les petites bêtes pollinisent des plantes, dispersent des graines et aident à combattre les insectes. À travers les oiseaux, on peut savoir dans quel état est l'environnement. À quoi servent les plumes des oiseaux ?
Chaque oiseau a plein de plumes sur le corps, et elles ont des tailles, formes et fonctions différentes. Certaines plumes, comme celles de la queue, sont solides, raides et imperméables. Elles servent pour se diriger, monter, descendre ou encore freiner. Comment les oiseaux résistent-ils au froid ?
Grâce à leurs plumes. Elles permettent de garder l'air chaud et de les conserver à proximité du corps. Lorsqu'il fait vraiment très froid, les oiseaux ébouriffent leurs plumes et donc ont plus d'air chaud. De quoi se nourrissent les oiseaux ?
Les vers, limaces, escargots ou les chenilles composent jusqu'à 40% de leur menu. Ils aiment aussi les fruits très mûrs, les baies de lierre, de piracanta ou d'aubépine. Les oiseaux sont-ils en danger ?
La pollution, l'exploitation forestière, la chasse et l'urbanisation sont pointés du doigt et directement responsables de cette extinction de masse. Mais l'intensification de l'agriculture est l'activité humaine la plus menaçante pour les oiseaux.
Le collège a donc décidé de devenir refuge LPO, c'est-à-dire que des espaces verts vont être créés pour que les oiseaux puissent trouver un endroit où ils vont trouver de la nourriture et un endroit pour nicher et se reposer.
C'est une super idée. J'ai hâte de découvrir ça.
Avant de terminer cette émission, Wassima et Noah vous proposent de découvrir un livre.
Bonjour, je suis Wassima. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je viens de découvrir. Il parle du recyclage. Le livre s'appelle « Défi zéro déchet » de Karine Balzo aux éditions Rusty Kids. Le livre propose 32 défis à relever pour protéger la planète. Il y a par exemple un défi pour trier, faire du papier recyclé. Un autre défi nous propose aussi de fabriquer une boîte à mouchoirs inépuisable pour éviter de jeter à chaque fois des boîtes vides. Noah vous partage ce défi.
Première étape, prendre une boîte en bois, la décorer avec vos couleurs préférées. Deuxième étape, découper ensuite un drap pour en faire des mouchoirs. Il faudra les plier en deux pour les ranger. Et voilà, vous obtiendrez un format classique, des mouchoirs jetables, mais en version durable. Troisième étape, lavez vos mouchoirs au fur et à mesure et mettez-les de nouveau dans votre boîte. Elle ne se vide jamais et n'hésitez pas à faire tester à vos amis.
Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne écoute.
C'est la fin de notre émission autour de la protection des oiseaux et de la biodiversité.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que vous avez appris des choses et que cela vous donnera envie d'agir au quotidien pour protéger les oiseaux et la biodiversité près de chez vous et où que vous soyez.
Merci à Audrey de Radio B. Merci à mesdames Cola et Jérôme du Collège Yvon Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs. Merci aux élèves et adultes qui ont répondu à nos questions. Merci à Paul Brunet de la LPO de l'Ain pour son intervention.
À la réalisation de cette émission,
Maïwen,
Titon,
Noah,
Wassima,
Lana,
Bérénice,
Wendy,
Zoé,
Ashley,
Flora,
Clément,
Quentin,
Johan.
Réécoutez cette émission sur radio-b.fr dans la rubrique Les ateliers et les ateliers de Radio B.